J'interviens un peu une sorte de triple titre, psychanalyste, universitaire et éditeur. Pour dire les choses un peu plus précisément, je suis donc psychanalyste, j'appartiens à l'Association psychanalytique de France, à l'APF, qui est donc une des deux sociétés de l'IPA de l'Association internationale en France. Je suis par ailleurs universitaire, professeur de psychopathologie à l'université Denis Diderot Paris 7, et je suis enfin éditeur aux presses universitaires de France, où je dirige la petite bibliothèque de psychanalyse, collection comme ça, se présente sous un format. En Suisse, ils appellent ça les petits bleus, signe de reconnaissance. Et je suis également l'adjoint de Jean Laplanche, qui est donc le directeur, lui, de la bibliothèque de psychanalyse, qui est la grande collection classique des PUF, là où se trouvent notamment les ouvrages de Freud, de Melanie Klein et de quelques autres. Et je voudrais donc, je laisse de côté l'aspect universitaire, sauf s'il y a des questions qui devaient venir sur ce thème. Je prends un petit peu les deux autres aspects, c'est-à-dire la question de la psychanalyse à la fois avec celle de l'écriture et de l'édition. Je n'ai pas prévu et pensé faire une longue conférence, tout cela va être assez improvisé. Mon idée serait plutôt de vous présenter quelques aspects du problème et de la difficulté d'une certaine manière, et éventuellement de discuter avec vous si vous le souhaitez. La question de l'édition de la psychanalyse, à proprement parler, disons, dans sa tradition, est devenue quelque chose de difficile et de compliqué qu'on ne peut pas confondre avec la... je viens de faire un tour des tables. Il est possible que le livre psy dans son ensemble se porte bien. Je ne sais pas quels en... En tout cas, il y a indiscutablement ici des données variables. La psychanalyse en tant que telle, à proprement parler, est-elle dans une position qui n'est pas non plus inconfortable, mais n'est pas non plus aisée, qui en tout cas fort différente de ce qui a pu être la situation de l'édition pour la psychanalyse dans les années 70, 80 et encore début des années 90, c'est-à-dire lorsque dans le fond, porté par, sinon simplement la mode, mais quand même un mouvement de société fort, il y avait là une sorte de tranquillité éditoriale, si l'on peut dire, dans laquelle nous ne sommes plus. Et la difficulté ne tient pas simplement à ce qui serait comme ça, des variations simplement liées à la mode, c'est certainement aussi lié à la chose même, inévitablement sans doute, à la question de la psychanalyse, et à ce paradoxe qui est que la psychanalyse a diffusé de façon extrêmement large les idées qui sont les siennes, pluralité des idées qui sont les siennes, très grande diffusion, dans le fond, très grande présence implicite. N'importe, il suffirait de faire une petite revue de presse sur une semaine pour constater à quel point ici et là les choses comme cela s'infiltrent, s'insinuent. Plus personne aujourd'hui ne peut entendre le lapsus d'un homme politique sans sursauter et en même temps avoir un certain nombre de références qui immédiatement viennent. M'en vient un, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là, c'était la campagne, c'était la campagne présidentielle où Mitterrand avait été élu, et dans le camp de la droite, c'était donc l'adversité, la rencontre adverse de Chirac et de Raymond Barre. Raymond Barre donc battu au premier tour, laissant la place, invitant à voter pour Chirac, et Chirac faisant un meeting à Nantes et un superbe lapsus, disant il y a toutes les raisons de se méfier de Raymond Barre, non pardon, de François Mitterrand. Bon, il y avait là, je pense que d'une certaine façon, alors ceci dit, Shakespeare lui-même utilisait le lapsus dans Le Marchand de Venise par exemple, donc il y a une connaissance dans le fond de la part de vérité du lapsus qui est sans doute fort ancienne. Il reste que Freud et la psychanalyse est passé derrière et que ça a certainement changé notre écoute de toutes ces questions. Il y a donc à la fois cette grande diffusion, cette présence comme cela de la psychanalyse, et en même temps, qui fait une psychanalyse à proprement parler, dans le fond, extrêmement peu de gens, extrêmement peu de personnes, une rareté des gens qui sont en analyse, sans commune mesure, j'entends au sens sort un petit peu de la notion. La manière, par exemple, simplement dont moi je pratique, c'est-à-dire 3 séances par semaine de 45 minutes, peu de gens s'engagent, éventuellement, 3 ou 4 séances, peu de gens s'engagent dans une entreprise de cet ordre, qui sollicite, qui contraint et qui exige beaucoup. Il y a donc cette situation paradoxale qui, je crois, n'est pas sans rapport avec la situation de fond de la question de l'édition, qui est bien sûr est multiple. Si je prends, c'est à la fois, la psychanalyse a aujourd'hui plus de 100 ans, elle a beaucoup produit, beaucoup écrit, trop écrit certainement. Il y a certainement trop de livres qui ont été publiés d'une certaine manière, ce qui a quand même noyé un petit peu les choses et plutôt brouillé les cartes que multiplié les possibilités. Il y a bien sûr la multiplicité des théories. C'est une difficulté relative. Ce serait pire s'il n'y en avait qu'une. Ce serait pire s'il n'y en avait qu'une qui se prétendait la seule. Bon. La pluralité des théories maintient au contraire une espèce d'équivoque par rapport à un objet, l'inconscient, par définition inconnaissable, insaisissable en direct, et où pour le coup, cette pluralité des approches, leur caractère contradictoire et divergent, est en même temps une sorte de respect de la singularité humaine et de sa complexité. Il reste que la pluralité, ou quand elle tourne un peu à la tour de Babel, finit aussi par avoir un petit peu ses inconvénients, dans la mesure où elle introduit une confusion, on ne sait plus très bien de quoi on parle, tout le monde dit pulsion de mort. Si on devait demander aux uns et aux autres qu'est-ce que vous entendez par là, on tombe, et d'abord au plus grand. Quand Melanie Klein dit pulsion de mort ou instinct de mort, elle dit évidemment pas grand-chose qui ait à voir avec ce que Freud entend par là, pour commencer par les débuts. La suite, évidemment, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que la multiplicité éditoriale a plutôt ajouté, bien sûr, à la confusion qu'elle nous permet d'en sortir. Alors, il y a cet aspect des choses qui je pense aussi, a rendu les choses un peu difficiles de l'intérieur, et qui fait que, bon, plus, encore une fois, le temps est passé, les théories se sont constituées. Si je prends par exemple l'expérience de la bibliothèque de psychanalyse, qui est donc sensiblement différente dans son esprit, je vais en parler, de la petite bibliothèque de psychanalyse. La bibliothèque de psychanalyse, c'est donc celle qui contient les ouvrages de Freud, de Melanie Klein et d'un certain nombre d'auteurs, y compris bien sûr d'aujourd'hui. Mais il suffit de s'apercevoir que pour le coup, ce n'est plus une bibliothèque, une collection qui publie beaucoup, qui est devenue extrêmement économe. C'est quasiment de l'ordre d'un livre par an dans la bibliothèque de psychanalyse, ce qui est quand même peu. Non pas que l'on ne reçoive pas de manuscrits, mais nous sommes devenus, Jean Leplanche et moi-même, très économes sur l'exigence éditoriale de ce point de vue-là. On estime dans le fond qu'une bibliothèque comme celle-là, qu'une collection comme celle-là, tout le monde ne demande pas à tout le monde d'être dans la contribution, à la hauteur de la contribution de Freud ou Melanie Klein, il ne faut évidemment pas exagérer, mais en même temps d'attendre des idées nouvelles ou des points de vue nouveaux, la chose n'est pas si simple, n'est pas si aisée. Il y a donc quelque chose comme cela qui va plutôt, avec, c'est vrai, une part de décision de notre part, dans le sens d'une sorte de raréfaction de la publication, en essayant en même temps d'en retenir le meilleur. La petite bibliothèque de psychanalyse a un autre objet, un autre projet. C'est une initiative que j'ai prise il y a quelques années. Et donc, si vous avez un petit peu le format en tête, il s'agit d'un format relativement petit, tant par la taille que par le nombre des pages, ce qui suppose aussi une politique de prix, une politique commerciale, c'est aussi comme cela, par rapport à un public pour lequel le livre est parfois devenu difficilement accessible. Je pense à tous les étudiants, à des très nombreux jeunes qui sont intéressés par ces questions et qui, pour lequel le livre est un objet vite coûteux. Donc il y a à la fois cette idée, et puis ça c'est bien sûr l'aspect un peu matériel des choses, il y a le fond de l'affaire, c'est-à-dire dans le fond, comment trouver une manière, un style de communication qui à la fois soit fidèle au vif de l'expérience analytique, qui ne lâche pas sur le cœur de cette expérience et qui en même temps puisse rencontrer son lecteur au-delà d'un cercle très restreint de quelques-uns qui deviendraient des quasi-intimes. L'idée à partir de là a été dans le fond de construire des livres. Ils ne sont pas tous collectifs, la plupart sont des ouvrages collectifs, quelques ouvrages individuels comme celui de Catherine Chabert qui s'appelle Féminin mélancolique, ou de Pierre Fédida, Par où commence le corps humain, et celui qui va sortir très bientôt, Catherine Cissot, Les dépressions de la vie. Il y a donc des ouvrages comme cela qui porté par un seul auteur, mais la plupart du temps un ouvrage collectif, avec cette idée de débat, de mettre un certain nombre d'auteurs en débat, ce qui en psychanalyse n'est pas si simple. On peut difficilement en psychanalyse débattre thèse contre thèse, ce qu'on peut tout à fait faire par exemple dans d'autres disciplines. Bon, le débat psychanalytique emprunte toujours lui-même quelque chose à la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre la forme assertorique d'affirmation de thèse et d'antithèse. Il faut ce qui a été souvent retenu comme forme, c'est que dans le fond, la plupart du temps, les publications, depuis le premier volume sur les états limites, et c'est peut-être une question sur laquelle je vais revenir après, mais depuis le premier volume sur les états limites jusqu'à au volume qui va sortir dans très peu de temps, l'oubli du père, volume collectif à chaque fois, ayant toujours pour départ un moment de travail collectif. En d'autres termes, il ne s'agit pas purement et simplement de réunir un certain nombre d'auteurs sur un thème, mais le livre n'est jamais, ce ne sont jamais non plus, de l'autre côté, de simples actes de colloque ou de journée de travail ou de séminaire. Bon. Mais c'est presque toujours à partir soit d'un colloque, soit d'une journée de réflexion, soit d'un temps de séminaire, c'est presque toujours à partir d'un contexte comme cela où les gens se sont frottés un peu les uns aux autres dans une exigence de communication, ce qui ne veut pas dire nécessairement de simplification, mais dans une exigence de communication, et chercher à reprendre au niveau du volume, dans le fond, le bénéfice de ce travail et essayer d'en restituer quelque chose. Je prends un exemple ou deux exemples d'une forme qui se révèle, je crois, à la fois riche pour les participants et apparemment pour les lecteurs, puisque il s'avère que c'est une collection qui marche, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui a trouvé ses lecteurs, de fait, où les livres s'épuisent relativement vite et où les choses sont rééditées, y compris à l'étranger, alors que la question des traductions étrangères est une question assez complexe. On connaît en général la difficulté à faire traduire des ouvrages collectifs, précisément, qui sont rarement traduits. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a donc quelque chose qui, de ce point de vue-là, a trouvé son lecteur, ses lecteurs. Et je prends une forme, par exemple, qui est devenue, de ma part, un peu préférentielle, parce que je la trouve assez vecteur des choses. C'est se servir d'un texte de base, et nous l'avons fait à deux reprises jusqu'à présent, avec un volume qui s'appelle « Sexualité infantile et attachement ». Qui paraît sous le nom de Daniel Videlocher, et un volume qui s'appelle « Transfert et état limite », qui paraît sous la double direction de Caroline Thompson et la mienne. Ces deux volumes ont été conçus après un temps de travail collectif où nous nous sommes donné un texte commun. Dans un cas de figure, c'était un texte de Daniel Videlocher qui ouvre le volume, et la totalité des autres auteurs sont des gens qui viennent discuter, qui viennent parler, pas au sens de, encore une fois, du thèse contre thèse, mais qui viennent comme cela soit accompagner le texte, soit le discuter, soit le critiquer, etc. Et même chose avec Transfert et état limite, où cette fois c'est un texte d'un auteur aujourd'hui disparu, Margaret Little, qui fait état de son analyse avec Winnicott, qui rend compte de son analyse avec Winnicott, et nous avons repris ce texte de Margaret Little en demandant à un certain nombre d'auteurs, Pierre Fédida, René Roussillon, etc., de Michael Parsons, et ainsi de suite, un certain nombre d'auteurs de venir comme cela discuter de ce texte. Ce qui fait qu'il y a me semble-t-il, et en tout cas ça semble bien être reçu aussi comme cela dans le meilleur des cas, il y a de fait, si l'on peut dire, une rencontre que contraint le texte commun, qui fonctionne comme une sorte d'argument et qui permet de construire les volumes en question. L'autre aspect, un petit peu, c'est dans le fond un privilège des textes courts. Court n'a pas de nombre de pages, bien sûr, mais peut-être cette idée aussi que, je prends les textes de Freud, bien sûr il y a 20 volumes dans les œuvres complètes, certes, mais dans le fond 20 volumes de textes brefs, la plupart du temps, quelques textes longs, psychopathologie de la vie quotidienne, le beau d'esprit, quelques pavés, très peu dans l'œuvre, essentiellement dans le fond des textes parfois d'ailleurs très brefs, quelques pages, et ça me semble... Non pas qu'il faille prôner à tout prix le texte bref, c'est pas cela, mais cela me semble dans le fond assez en phase avec peut-être quelque chose de l'expérience analytique. Je reste pour ma part assez convaincu qu'on peut donner à entendre, qu'on peut faire comme ça saisir et toucher quelque chose du cœur de l'expérience analytique à partir d'instantanés de la vie ou de la situation analytique. Parfois juste une phrase peut comme cela par l'étonnement qu'elle provoque, par l'étrangeté qu'elle suggère comme cela et qu'elle mobilise peut tout à fait à elle seule être organisateur d'un écrit et transmission de quelque chose de la situation analytique. Bon, et je crois que les textes brefs, si bien sûr il ne s'agit pas d'un texte bref ne veut pas dire bâclé en aucune manière, mais le bref et l'incisif, dans le fond, me semble peut-être plus à même de pouvoir restituer quelque chose du vif, du présent, transférentiel dans la circonstance de l'expérience analytique, que des pavés dont il faut quand même dire qu'un certain nombre d'entre eux nous tombent des mains, tant la psychanalyse a abusé, à l'évidence, bien souvent de la langue de bois. Voilà donc un peu l'espèce de projet, c'est-à-dire quand on est à la fois, comme je le suis, évidemment pas le seul, heureusement, très attaché à la psychanalyse en tant que telle, au cœur de l'expérience analytique, à sa reproduction pour le coup, à sa survie, à son maintien, il est évidemment absolument indispensable en même temps de trouver la manière d'en restituer quelque chose, d'en écrire quelque chose et de conserver aussi ce lien avec un public au-delà des seuls analysants. Je crois que c'est quelque chose de nécessaire, c'est sans doute aussi tout simplement quelque chose de nécessaire au travail de pensée de l'analyste. Bon, indiscutablement, on peut être analyste sans pour autant écrire la psychanalyse, certes, mais en même temps, je crois, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, le fait d'écrire la psychanalyse participe de mon travail d'analyste, c'est-à-dire participe d'un travail de pensée. Je ne pense pas qu'on puisse être psychanalyste sans travailler avec les patients en dehors de leur présence, qui est un temps tout à fait essentiel. La pensée, je dirais, l'analyse et la pensée des patients en dehors des moments de l'analyse elle-même, et je crois un moment qui fait tout à fait partie du travail de l'analyse, et que l'écriture est bien entendu un des lieux possibles, évidemment pas le seul, mais un des lieux possibles de ce travail nécessaire. Voilà peut-être les quelques premières remarques que je pourrais faire, si... étant volontiers prêt à discuter avec vous des questions qui pourraient vous venir.
Merci bien. Je m'appelle Flaco, je suis aussi psychanalyste. Le problème de l'édition, il me reste. A évidemment quelques rapports serrés avec l'institution psychanalytique, disons. Je veux dire par là que les institutions psychanalytiques dans leur ensemble ont promu de façon permanente l'exercice via la psychanalyse. Bien que Freud lui-même a au moins une fois défendu l'idée d'une. Le centre de traitement psychanalytique à Budapest, à la conférence de 1918, une pratique psychanalytique, disons, de type, je ne sais pas dire collectiviste, mais quelque chose qui ressemblerait à une diffusion large de la psychanalyse par des instituts de traitement, des centres de traitement qui seraient gratuits pour justement la majorité, parlé tout à l'heure de la minorité des patients en psychanalyse proprement dit, et là justement il procède une grande diffusion de la psychanalyse par l'intermédiaire de ces centres gratuits pour toucher donc une majorité de patients. Bon, j'en reviens au problème de l'édition. Tout mode de transmission, de savoir, alors évidemment, c'est avantage, mais aussi c'est l'inconvénient. Pour ce qui est des inconvénients, je dirais que l'objet livre a quelque chose qui, justement, comme vous disiez implicitement, perd ou laisse tenter quelque chose du vif de la psychanalyse, en ce sens qu'une fois le texte délivré et livré à la publication, l'auteur, d'une certaine façon, disparaît. Il a jeté son livre dans la circulation commerciale et personne au fond ne sait vraiment qui il est, ce qu'il pense de son livre, ce qu'il pense de sa théorie. Vous avez beaucoup parlé de théorie, alors là, c'est quelque chose qui ne m'a pas à faire souci. C'est que l'auteur a un livre, et a fortiori une œuvre, c'est-à-dire un pire livre, est un peu prisonnier de cette théorie, au sens où il ne veut pas la lâcher. Il veut poursuivre sa cohérence, il a une difficulté immanente, intrinsèque, à changer sa pensée, à faire évoluer sa pensée. Un jour, il se veut fidèle à lui-même, ce qui est bien compréhensible, évidemment. Et puis l'objet livre, bon, on porte toute une tradition d'un objet plus ou moins sacré, confirmé justement par le bruit de certains bouquins. Vous avez défendu à juste titre la tradition dont vous avez parlé. Mais il y a donc, quelque chose comme une perte du vif de la psychanalyse dans les bouquins, qui deviennent souvent des sortes de fétiches que beaucoup relisent, et bon, évidemment, mais relisent mais pour en faire quelque chose de... un savoir arrêté, voilà, un savoir arrêté. Effectivement, le vif de la psychanalyse, c'est que de considérer que ce n'est jamais terminé. Bien entendu, rien n'est jamais terminé. Alors, tout ceci, tout ça, cette introduction, au fond, pour vous poser une question, quelque pensée comme ça, depuis quelque temps. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque avantage à ce que les publications de textes, justement, les textes courts, publiés, sur un site internet, il y aurait au moins deux avantages. Le premier, c'est que le texte pourrait justement rester vivant. Parce que l'auteur d'un texte publié sur un site internet a la capacité publique de modifier, de réécrire, de changer, de supprimer, d'ajouter quelque chose qui peut se maintenir, une écriture toujours vivante et jamais terminée, à partir de là jusqu'à l'épuisement de l'auteur. Et le deuxième avantage, c'est qu'il pourrait, justement, il pourrait recevoir et éventuellement les co-publier, des interventions, des interventions de toutes sortes qu'il pourrait recevoir comme ça dans son mail, hein, dans son adresse électronique personnelle. Vous voyez, il y aurait quelque chose comme ça qui... C'est peut-être un peu idéaliste, hein, ce que justement, j'aimerais bien avoir votre avis. Il y a quelque chose qui continuera à dire. Non seulement pour l'auteur, continuerait toujours à écrire son texte, et à la mesure où les échanges pourraient être faciles, les échanges pourraient s'instituer entre lecteur et auteur.
Alors, je commence. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais comme ça revenir dans votre intervention, mais je commence par la question et par la fin. Donc, je crois. crois qu'il y a très précisément aux presses universitaires de France quelque chose qui se dessine, sinon très exactement dans ce sens-là, mais enfin qui quand même va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le site des PUF soit précisément en même temps un lieu où on puisse aller. L'idée même du forum de discussion est une idée qui chemine. Il y a d'ailleurs des lieux, en fait, qui existent de discussion psychanalytique déjà. Mais l'idée même de discuter avec que le livre soit disponible sur Internet et que d'autre part on puisse le discuter lui-même, bon, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut envisager. Ça ne présente pas de difficultés dans le fond majeur de mise en œuvre, et on peut tout à fait y penser. La question de l'auteur, alors là je pense que c'est l'affaire de chacun, la question de l'auteur qui remanierait son livre au fur et à mesure sur Internet, je vais vous dire, moi en tout cas ce qui serait mon point de vue, c'est que ça fait quelques années que j'écris maintenant, que j'essaye. J'ai par exemple pas mal travaillé à une époque sur la sexualité féminine. Il y a eu notamment deux ouvrages, un petit que sais-je qui s'appelle La sexualité féminine, qui vient d'ailleurs d'être réédité dans les nouveaux formats que sais-je, et puis un livre qui s'appelle toujours Aux origines féminines de la sexualité. C'est un livre, il a 95, je crois, il doit avoir 8 ans. C'est un livre que j'aime toujours beaucoup. Ça ne veut pas dire que je suis aujourd'hui d'accord avec cela. Ce n'est pas un livre que j'ai envie de relire. Si les gens le lisent, j'en suis fort content. Moi, le relire, ça ne me dit pas grand-chose. Et quant à aller le prendre et le reprendre pour le corriger, sûrement pas. C'est-à-dire que je trouve beaucoup plus dynamique, de mon propre point de vue, si vous voulez, à marquer mon propre cheminement dans d'autres publications, quitte dans ces autres publications à prendre de la distance avec tel et tel aspect qu'on a pu développer à l'époque. Je ne crois pas pour... Alors bien sûr, le narcissisme de chacun et la nécessité pour tout un chacun de tenir debout, si l'on peut dire, et de ne pas partir en morceaux, suppose qu'il ne change pas de théorie comme de chemise. Mais en même temps, il y a quand même là une question majeure, un obstacle majeur, une difficulté majeure. Un de mes critères, si vous voulez, comment dirais-je, un de mes critères, pas radical, mais quand même une indication forte pour refuser un manuscrit, par exemple, c'est quand il est absolument autoréférentiel. On reçoit des manuscrits qui demandent des gens qui veulent être édités, où à part Freud et eux-mêmes, ils ne citent personne. Et ils citent plutôt un peu plus eux-mêmes d'ailleurs que Freud. Bon, donc, ce qui fait que vous avez cette espèce effectivement d'ouvrage qui est l'espèce de, comment dirais-je, de retour sur soi-même absolument permanent. Il y a là quelque chose qui passe fort mal, je crois, à juste titre, et qui est ce type de... Là où, pour le coup, on est dans, même pas dans la fidélité théorique, mais dans la difficulté narcissique à faire un propre pas de côté, un peu par rapport... Ça me semble, pour le coup, alors véritablement, quant au fond, anti-analytique, s'il est vrai que l'analyse, c'est quand même... Il y a une formule de Pierre Félida que j'aime bien, il dit « Être analyste, c'est écouter avec l'inquiétante étrangeté ». Formule à laquelle je souscris, pour le coup, cette espèce de clôture narcissique que l'on peut trouver dans certains ouvrages va évidemment tout à fait en sens contraire de cet aspect des choses. Moi, je crois qu'on peut maintenir, sans tomber en morceaux, sans s'éparpiller, qu'on peut maintenir une sorte d'équivocité et de polymorphie théorique. Il n'y a pas de mal. Je crois que ça peut tout à fait se faire sans évidemment tomber dans le patchwork. Je crois que chacun a aussi besoin et le lecteur a besoin de sentir en même temps une pensée qui se constitue et qui se propose. Le lecteur se débrouille mieux dans le fond avec ce qu'il sent véritablement d'exposer et de présenter, y compris bien sûr à ne pas être du tout d'accord. Mais je crois par contre que pour moi le mouvement théorique, bon, de ce point de vue-là, le modèle de Freud est quand même extraordinaire, difficilement dépassable, c'est-à-dire Freud dit bon bah ça marche pas, l'expérience le dément, on change de théorie. Il s'est quand même pas privé de le faire, quand bien même il n'a pas changé sur tout, ça n'avait rien d'une girouette, bien entendu, mais en même temps, quand même, un truc, quelque chose d'assez extraordinaire dans la capacité plastique mobile comme cela. prenez la théorie de l'angoisse, prenez tout simplement le changement de la deuxième topique, ce sont des véritables bouleversements où la sexualité infantile passe dans toute autre chose. Il y a comme ça, et je crois que personne ne soutiendrait pour autant que l'œuvre freudienne, qui est certainement pas exempte de contradictions, serait pour autant une sorte de bateau ivre. Il y a vraiment quelque chose que l'on sent d'une pensée extrêmement forte tenue et en même temps absolument soumise à l'expérience et à ses déménagements, à ses bouleversements. Je crois qu'on n'est plus analyste si on n'est pas susceptible précisément d'être défait dans ses convictions et déplacé dans ses certitudes, jamais complètement bien sûr, jamais totalement, mais là je crois que c'est malgré tout quelque chose que l'on peut témoigner. Et il me semble, alors c'est le défi de l'écriture, c'est le défi de la transmission écrite, à la fois de pouvoir restituer, on y arrive, on n'y arrive pas, on y arrive plus ou moins bien telle fois et plutôt mal telle autre fois. Pour ma part, comme ça, on change aussi de sa manière d'écrire. Le style et la façon d'écrire, je pense aussi, sont des bonnes indications, si je peux me permettre d'être autoréférentiel, si je puis dire, après bien d'en avoir critiqué le principe. Je suis devenu comme ça pour ma part, j'ai beaucoup cette question, c'est-à-dire comment dans le fond, comment effectivement restituer quelque chose comme cela, de l'étrangeté, pas seulement le vif, mais dans le fond l'espèce d'étonnement de l'expérience analytique. Je prends un petit exemple d'une femme, en trois mots, hein, je ne vais pas développer une séquence, mais juste en trois mots d'une femme qui est à peu près la quarantaine, une expérience analytique qui date de quelque temps, qui a à peu près la quarantaine. Un de ses motifs qui fait qu'elle demande l'analyse pour beaucoup, c'est qu'elle souhaite avoir un enfant, et qu'il est plutôt temps pour elle de s'y mettre, qu'elle ne dispose pas de grand temps devant elle. Cette chose-là est extrêmement présente, elle a un compagnon, elle fait ce qu'il faut pour avoir un enfant, elle fait ce qu'il faut pour être enceinte, et puis brutalement arrive un jour cette formulation tout à fait étrange, hein, cette femme qui, encore une fois, fait absolument tout ce qu'il faut pour en avoir un, dit « Je ne suis pas sûr de vouloir un enfant de moi ». Très étrange, cette expression « un enfant de moi », elle fait absolument tout ce qu'il faut pour ça, encore une fois. Hein, mais que cette expression « un enfant de moi » soudain devient absolument bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire « un enfant de moi » hein? L'étrangeté absolue de ce moment, comment pouvoir le restituer, c'est évidemment pas simple. Qu'est-ce qui fait qu'un moment comme ça, très ordinaire, une phrase faite pour passer inaperçue, parce que ça lui vient à elle-même, soudain, cette idée lui devient à elle-même tout à fait étrange, hein, est en même temps un moment d'analyse tout à fait clé, tout à fait essentiel. Moi, je suis dans un mouvement où j'essaye plutôt à partir de, pour tout vous dire, parce que je ne travaille pas qu'avec les presses universitaires, je publie un ouvrage en janvier dans la collection de Pontalis Tracé chez Gallimard, qui s'appelle L'imprévu. L'imprévu, sous-titre en séance, et qui est précisément fait comme ça, de textes, alors pour le coup très courts, 4, 5, 6, 7, 8 pages, de textes très courts, à partir d'instantanés de séance, tant il est vrai que ces instances, mais toujours ces éclats, bien sûr, ces petits moments comme cela d'une particulière vivacité, me semblent dans le fond plus à même, bien souvent, que des longs développements métapsychologiques, à pouvoir rendre compte de l'étrangeté de ce qui peut se passer et en même temps donc de la force, de la qualité. Je suis un fervent défenseur de la psychanalyse et de sa qualité, y compris thérapeutique, de pouvoir en restituer quelque chose. Alors, pas évoquer tout ce que vous avez repris, évoqué, mais juste le point de départ, parce que peut-être que ma présentation initiale sur la psychanalyse en tant que telle et le cœur de l'expérience analytique pourrait donner à penser que pour moi, la psychanalyse, c'est là et c'est nulle part ailleurs. Alors, je laisse tomber le côté des centres de traitement et des choses comme cela, mais par contre, j'ai tout à fait l'idée, en tant qu'universitaire, travaillant dans une université où le diplôme de DESS de psychologie clinique et pathologique forme donc des psychologues cliniciens qui, la plupart d'entre eux, vont devenir des psychothérapeutes. Je suis donc tout à fait placé dans cette circonstance et pour le coup, je suis extrêmement attentif, n'est-ce pas, au fait. Je ne crois pas personnellement qu'on puisse devenir psychologue clinicien sans avoir rencontré quelque chose de la psychanalyse. Je ne suis pas plus précis que ça, mais au moins cette idée, sans avoir rencontré quelque chose de la psychanalyse. Et ce qui me saisit bien souvent, par exemple dans les supervisions de stages d'étudiants, ce qui me saisit bien souvent, c'est à quel point, dans des conditions qui sont alors aussi éloignées que possible de la cure type, qui n'ont vraiment rien à voir avec l'analyse en tant que telle, j'ai un exemple tout récent comme ça d'une étudiante en stage dans un service hospitalier d'Emma Ferrez, c'est-à-dire avec des patients qui viennent là pour 3 heures, pour un échange complet du plasma sanguin, souffrant en général de taux de cholestérol extrêmement dangereux, qui fait que régulièrement, tous les 3 mois par exemple, ils doivent complètement changer le plasma sanguin. Bon. Ils sont donc branchés pendant 3 heures sur une machine. Ils sont plusieurs dans une salle. Ça fait un bruit terrible, un véritable bazar. Cette jeune étudiante, pas très jeune, c'est comme quelqu'un qui a une certaine formation, mais c'est pas quelqu'un qui sort du bac, hein, quand même, non plus, faut bien le dire. Cette jeune étudiante, au prix de ses lombaires, parce qu'elle ne peut entendre les patients qu'en se mettant, en restant debout et en restant penché, donc dans une situation physique particulièrement inconfortable, hein, du seul fait de tendre l'oreille, d'ouvrir une oreille, restitue des moments qui sont des moments d'une force et d'une vérité tout à fait étonnantes, avec une qualité en plus d'engagement pour les patients en question, qui évidemment pourraient reprendre ça autrement et ailleurs. Donc c'est pas l'idée simplement que l'ouverture de la, je voudrais pas avoir donné ce sentiment que l'ouverture de quelque chose de l'analyse ne pourrait avoir lieu que dans les conditions les plus traditionnelles de la cure, hein, mais qu'il y a bien quelque chose de l'analyse qui est de son plus vif, qui peut ce qui évidemment renvoie à la difficulté à essayer de saisir, dans le fond, qu'est-ce qui permet que s'instaure une situation analytique, question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Oui.
Oui, brièvement. Ce débat entre l'autoréférentiel et la culture analytique. C'est difficile. Moi, ça me paraît difficile de trancher. Et je pense de l'excellent. Si je fais par exemple Biderman ou Rastin, sont en petit qui sont autoréférenciés, mais alors c'est un choix, pratiquement. C'est un choix de montrer comment un psychanalyste a tracé son chemin sans justement aller. Emprunter des idées ou des théories aux uns et aux autres, et puis qui font référence, ça c'est le mérite particulièrement de Grand Rastin, qui font référence à leur propre invention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie. Qui dit théorie, toujours universalisable, toujours une ambiguïté. On peut dire évidemment qu'il y a force de nombreuses théories. Enfin, ce terme fait problème. On a l'impression comme ça que l'auteur a psychanalyse à partir du moment où il s'est écrit, ou bien il laisse de côté son inconscient. C'est paradoxal. Il a une idée, il a une idée qui est le mot, et puis il la poursuit sans se demander si ce n'est pas le produit, l'effet de sa singularité inconsciente, disons. Alors ça fait école. Voilà. Alors les élèves, que ce soit dans les universités ou dans les associations psychanalyse, avec l'esprit de soumission dont il est malheureusement difficile de se départir, absorbent ces théories, les font leurs, obscurcissent même peut-être leur propre rapport à leur propre inconscient à partir de ce savoir, comme ça qu'on a fait fiche, disons rapidement, de refoulement, hein, des choses comme ça. Il y a un vrai problème de cette théorie.
Est-ce que je peux...
Je voudrais terminer en disant que Freud était nécessairement à force autoréférentiel.
Shakespeare, Sophocle, enfin, Freud, oui, mais Freud est traversé d'une multiplicité d'expériences étrangères.
Tout à fait, mais comme inventeur de la psychanalyse, il était forcément autoréférentiel. L'interprétation des rêves, Il ne sait pas beaucoup d'autres auteurs, sauf pour faire historique. Ça, la demande d'ailleurs, oui. il a fait même une économie d'un historique de la science humaine. Enfin, je ne veux pas trancher, hein, mais il y a une chose qui paraît difficile entre référence qualité et emprunt théorique.
Alors, la question, question tout à fait passionnante. D'abord, moi je pense que on ne peut pas à la fois être un spécialiste, si l'on peut dire, du corps étranger interne, de l'étrangèreté, si l'on peut dire, de l'inconscient, sans en même temps être ouvert, pour le coup, sur les discours autres que les siens. Ça ne me paraît pas du tout incompatible. Freud lui-même, parce que Freud autoréférentiel, j'aurais bien du mal à le penser comme tel, à la fois par la façon dont il se laisse solliciter par l'expérience culturelle sous toutes ses formes, et mais aussi par ses collègues. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui il lit tout le monde et il est encore capable, à la fin de son œuvre, de dire j'ai tort, Melanie Klein a raison sur la question du surmoi précoce. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui est tout à fait susceptible de s'ouvrir précisément à des contestations théoriques, y compris tardives, sans parler de tout ce que lui a apporté et Abraham sur la mélancolie et Ferenczi sur la pratique, etc. etc. Et au contraire, me semble-t-il, la position de celui qui est en position de fait de père fondateur, de maître de départ, à quel point il est resté jusqu'au bout, complètement ouvert quand même, non pas évidemment aux dissidents, si on dit comme Jung, il n'y a pas de sexualité infantile, ça ne l'intéresse plus, mais quand on dit par contre le surmoi est précoce, ça l'intéresse beaucoup. Il y a donc là quand même quelque chose qui est resté absolument vivant, je trouve, dans le questionnement. La question de la théorie, on peut bien sûr en dire le pire et le meilleur. Le pire, c'est le dogmatisme. Le pire, c'est le dogmatisme, c'est-à-dire une théorie qui se prend pour la seule. Je crois qu'il n'y a de guère que deux grands exemples dans l'histoire de la psychanalyse mondiale. Melanie Klein, quelle que soit la qualité de son apport, quelle que soit la richesse de l'œuvre, il y a un moment donné où, effectivement, elle devient kleinienne. Il y a un moment donné où elle devient kleinienne et où il y a quelque chose qui se ferme. Mais lorsqu'à la British Society il y avait une conférence et que l'auteur de la conférence n'était pas kleinien, elle se levait, elle partait. Bon, il y a eu ce moment de fermeture qui d'ailleurs n'empêche pas aujourd'hui pour nous tout l'intérêt comme cela de l'œuvre kleinienne. Et puis bien sûr Lacan et le lacanisme, où là aussi il y a eu cette espèce de fermeture jusqu'au mimétisme stylistique, jusqu'à l'écriture convenue, caricaturale. Bon, donc là il y a eu deux moments, ce qui évidemment là aussi n'empêche absolument pas la qualité de l'œuvre de Lacan et le plaisir qu'on peut avoir à le lire. Mais on a eu deux grands moments qui ont été des moments historiques où une vérité a cherché à se faire passer pour la seule, avec toute cette difficulté. De l'autre côté, je dirais que et les exemples de Stein et de Widerman ne me semblent pas du tout aller contre cela, à quel point aussi ce sont des hommes de culture et des hommes informés de ce qui se fait en psychanalyse. Quant à laisser passer quelque chose de son expérience personnelle, ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait, et d'autres l'ont fait bien plus loin que d'eux. Margaret Little, que je citais tout à l'heure, par exemple, a franchi des véritables océans, si je puis dire, de ce côté-là, sans parler de Ferenczi dans son journal clinique. Il y a ici, alors on peut tout à fait faire la place à ça, mais en même temps, je dirais un peu que mon préjugé là-dessus, c'est en gros, moins on s'occupe de la théorie, plus elle s'occupe de vous. Je crois que le dispositif analytique, l'analyse elle-même, est quelque chose qui est un résultat d'expérience, une somme d'expérience, y compris bien sûr une somme d'expérience théorique. Et que de l'autre côté, alors je ne suis pas non plus du tout pour un formalisme théorique, mais de l'autre côté, je crois qu'il faut aussi garder cette idée que la seule chose dont on puisse débattre, c'est-à-dire paradoxalement la seule chose qui nous protège du dogmatisme, c'est précisément la théorie. On ne peut débattre, on va pas débattre des patients, on ne va pas débattre des interprétations séances, on ne va pas débattre de tel événement transférentiel. On ne peut débattre, effectivement, c'est l'infirmité du discours, d'une certaine manière, on ne peut débattre que de théorie. Et la théorie, précisément de ce point de vue-là, est quelque chose qui, par son équivocité et sa polymorphie, permet d'éviter dans une certaine mesure, sauf bien entendu si elle se ferme sur la certitude et si elle se ferme sur l'affirmation de soi, ce qui arrive, on en conviendra volontiers, mais qu'elle, je ne suis pas pour ma part pour tirer à boulet rouge dessus, parce qu'encore une fois, je crois qu'elle fait tout à fait partie de la vie de la psychanalyse quand elle est vivante. Peut-être s'arrêter là. On s'arrête là, c'est ça.